La revue de presse internationale, tandis que s'installe le ministre de la Culture, Franck Riester, que je salue, avec qui on va parler du grand débat, mais tout d'abord de l'international en votre compagnie, Camille Magnard. Les ennuis, ça vole toujours en escadrille, je crois qu'on peut le dire de manière encore plus grossière, mais on est poli sur France Culture. C'est ce que disait un certain Jacques Chirac, et c'est Donald Trump qui est en train de l'apprendre à ses dépens.
Oui, car le Congrès, le Parlement américain, est composé, on le sait, de deux chambres, celle des représentants et le Sénat, et ces deux chambres, coup sur coup, viennent de lancer chacune une charge contre le président américain. La moins surprenante d'abord, c'est celle de la Chambre des représentants, dont CNN nous rappelle que les démocrates y ont la majorité depuis les dernières élections de mi-mandat. On savait donc que c'est de là que viendrait le principal danger pour l'administration Trump, et ça s'est confirmé hier avec le lancement non pas d'une, mais de toute une série d'enquêtes parlementaires sur les possibles collusions entre le Kremlin et l'entourage du président américain. En tout, 81 personnes et entités sont concernées par ces enquêtes et pourraient être sommées de comparaître devant les commissions d'enquête, à commencer par les enfants Trump et le premier cercle de la Maison Blanche, comme du comité de campagne de 2016. Pour le Washington Examiner, quotidien proche du président, ces enquêtes en rafale, c'est ni plus ni moins que la feuille de route des démocrates en vue d'un impeachment de Donald Trump. Stephen Dynan y explique que le vrai danger pour le président, c'est le fait que les traducteurs de la Maison-Blanche puissent être interrogés, ceux-là même qui ont participé aux rencontres à huis clos ces deux dernières années entre Donald Trump et Vladimir Poutine. Ils sont les seuls, à part les deux présidents bien sûr, à pouvoir révéler le contenu de ces entrevues.
Voilà donc pour la Chambre des représentants, mais le Sénat, à majorité républicaine, donne également des signes plus inattendu de rébellion.
Et c'est finalement peut-être bien là le plus inquiétant pour Donald Trump, selon le New York Times, qui fait sa une sur cette résolution en passe d'être adoptée par une majorité de sénateurs, dont un nombre conséquent de républicains. Et cette résolution, elle veut faire obstacle à l'urgence nationale décrétée par Trump il y a maintenant deux semaines sur la question de la sécurité à la frontière mexicaine. Une rébellion révélatrice, selon le New York Times, de la perte de contrôle de la Maison-Blanche sur le parti républicain et ses parlementaires. D'ailleurs, Slate concentre son analyse sur le personnage un peu tragique de Mitch McConnell, le chef du groupe républicain au Sénat, qui a tout fait ces derniers jours pour éviter la scission, mais qui voit se réaliser son pire cauchemar. Sa majorité se déchire, alors que le Sénat était censé, après les midterms, être le refuge, le dernier pilier du soutien à Donald Trump au Congrès. Mais la scission donc est bien là. Les sénateurs républicains qui appuient la résolution anti-urgence nationale expliquent dans tous les médias qu'ils ne veulent plus cautionner un président aux méthodes contraires, selon eux, à la Constitution américaine. Pour le New York Times, c'est une brèche essentielle qui s'ouvre en ce qu'elle pourrait pousser Trump à utiliser pour la première fois son veto présidentiel afin d'imposer ses vues à son propre camp.
Et puis au Canada, ce sont les démissions, Camille, qui volent en escadrille dans l'entourage de Justin Trudeau.
Oui, après sa ministre de la Justice, Jody Wilson-Raybould, après son bras droit, Gerald Butts, voici donc le premier ministre canadien qui voit sa ministre du budget, Jane Philpott, claquer la porte du gouvernement fédéral. Le Devoir à Montréal en conclut que oui, les problèmes s'accumulent pour Justin Trudeau en lien avec le scandale SNC-Lavalin. Alors si vous avez raté les épisodes précédents, le Globe and Mail de Toronto se charge de vous les rappeler. SNC-Lavalin, c'est une très grosse société de BTP québécoise qui emploie plus de 9000 personnes à travers tout le Canada et qui est visée par une enquête judiciaire sur des pots de vin versés à grande échelle à des dignitaires libyens du temps de la dictature Kadhafi. Dans cette affaire, le Premier ministre Trudeau, qui est québécois lui aussi, est soupçonné d'avoir fait pression sur la ministre de la Justice, Wilson-Raybould, pour éviter un procès pénal à SNC-Lavalin. Pour expliquer sa démission, hier, Jane Philpott a dit qu'elle n'avait plus confiance en Justin Trudeau pour faire respecter les grands principes politiques auxquels elle voue son engagement, le respect du droit et l'intégrité de la justice. Une justice canadienne qui est en pleine remise en question avec ce scandale SNC-Lavalin qui relance le débat repris par Le Devoir sur l'indépendance du parquet. Actuellement au Canada, la fonction de procureur général est assurée par le ministre de la Justice. Cette confusion des genres rend possible les jeux d'influence politique, mais pour l'heure, Justin Trudeau déclare à qui veut l'entendre qu'il n'est pas convaincu par la nécessité de séparer clairement les postes et les pouvoirs.
Mais oui, après Justin Trudeau, parce qu'en français on dit Justin Trudeau, tout autre chose en Europe. Les idiots utiles de Viktor Orban ont décidé de se rebiffer.
Oui, les idiots utiles, c'est le petit nom donné par le chef du gouvernement hongrois à ces partis de la droite européenne qui constituent le groupe PPE au Parlement européen, le groupe dont fait aussi partie le Fidesz de Viktor Orban. Enfin, peut-être plus pour très longtemps, car comme l'écrit ce matin le site d'info hongrois très pro-Orban 888.hu, les idiots utiles s'unissent pour chasser le Fidesz du PPE. La procédure a été lancée hier soir sur demande de 12 partis membres issus de 9 pays de l'Union européenne. L'exclusion ou bien la suspension du parti nationaliste et ultra-conservateur hongrois sera discutée le 20 mars, nous précise le site européen Politico, qui nous explique aussi qu'après des années de politique et de discours haineux en Hongrie contre l'Europe, contre les juifs, contre les migrants, contre les droits humains, ce qui a finalement décidé la droite européenne à considérer l'infréquentabilité d'Orban et des siens, c'est une campagne d'affichage du Fidesz ridiculisant le président de la Commission européenne Jean-Claude Juncker. Le PPE doit exclure Orban, écrit l'éditorialiste allemand Christoph Schiltz dans Die Welt. Et c'est vrai que la clé de cette exclusion est très certainement entre les mains de la droite allemande, omnipotente au PPE et qui a trop longtemps toléré les écarts hongrois pour conforter le poids de son groupe parlementaire comme première force politique en Europe. Car Politico et les autres le disent déjà, une exclusion du Fidesz bouleverserait tous les équilibres politiques à Strasbourg et à Bruxelles avant même les élections européennes qui s'annoncent. Et le Financial Times le dit très clairement, le groupe des députés européens eurosceptiques mené par les Polonais du PiS et les Britanniques de UKIP se frotte déjà les mains à l'idée d'accueillir dans leur rang les 11 bannis du Fidesz.